France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la catastrophe dans le métro parisien le 10 août 1903. Dans la nuit, un incendie ravage les stations Couronne et Ménilmontant dans le 20e arrondissement de la capitale. Une tragédie, 84 cadavres sont remontés. Enchaînement de défaillances techniques, décision imprudente, couplée à une organisation négligente, tout cela conduit à ce drame le plus grave qu'ait connu le métro de Paris. Et comme il faut bien trouver des responsables, la compagnie du métropolitain parisien accable 4 employés subalternes. Mais face à la colère de l'opinion publique, elle prend immédiatement des mesures de sécurité drastiques. Un drame, certes, mais cette catastrophe marque en partie la vraie naissance du métro tel qu'on le connaît aujourd'hui. Notre invité est Mathieu Flonneau, enseignant-chercheur à l'Université Paris 1, spécialiste d'histoire urbaine, des mobilités et de Paris. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire et rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
C'est un lundi soir normal, un mois d'août à Paris. Dehors, il fait encore une vingtaine de degrés et un peu plus chaud sous terre, sur les quais de ce qu'on appelle le métropolitain et pas encore le métro. Oui, il y a comme une certaine gourmandise à dire le nom complet, métropolitain, pour cette invention qui révolutionne la capitale depuis sa mise en service pour l'exposition universelle de 1900. À la station Place de Clichy, sur la ligne 2, c'est la cohue habituelle d'une foule bruyante, joyeuse et parfois énervée par les retards ou les rambondées. Il y a là des ouvriers que l'on reconnaît à leur blouse ou à leur bleu travail, des employés de bureau en costume, quelques bourgeois, pas beaucoup, et des enfants en culottes courtes, beaucoup. Et puis, signe des temps, personne ou presque ne déambule tête nue. Alfred Martin et sa femme attendaient aussi le prochain train. Alfred Martin, c'est le correspondant parisien de la Gazette de Charleroi. Il doit aller jusqu'à Nation, puis prendre la ligne 1 jusqu'à Bastille, où il habite. Il est 19h, lui et son épouse jouent des coudes et les stations défilent. Place Blanche, Pigalle, Anvers, Barbès. Et là, premier incident. Descente sur le quai, attente, nouveau train. La Chapelle, Aubervilliers, Allemagne, combat et deuxième incident. Nouvelle attente, nouvelle rame, station Belleville, puis Couronne. Et là, le métro stop. Et là, on comprend très vite qu'on est dans une autre dimension, côté avarie.
Mademoiselle Alisson, vite, 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 il faut sortir, vite, vite.
Tiens-moi la main, tiens-moi la main. Avancez.
On entend les premiers cris, les premiers hauts feux de plus en plus forts, alors qu'une fumée noire se répand et que les lumières s'éteignent. Il est 19h30. Alfred Martin, qui a survécu, avertit ses lecteurs le lendemain. Vous excuserez le décousu de mes phrases et l'allure saccadée de mon style.
J'entends encore les clameurs affolées des femmes que l'on écrasait, les coups de gueule des employés affolés, les hurlements des enfants. Je sens encore l'âcre et épouvantable fumée qui nous faisait pleurer et nous étouffait malgré nos mouchoirs. Je crois encore tâtonner dans le noir visqueux des murs, buter sur des cailloux aigus. Le sombre, l'abominable cauchemar, les séculaires minutes d'angoisse atroce, de douleur désespérée, la vision horrible de la mort qui grince à vos oreilles, halète dans votre cou et vous harcèle en ricanant.
Dans son article, Alfred Martin note encore ce cadavre qu'il verra passer devant lui, ce corps odieux, boursouflé, aux yeux désorbités, dans lequel il reconnaît cette jeune femme qui était à côté de lui dans la rame. Elle était alors, et pour quelques minutes encore, une grande jeune fille, les yeux brillants, le teint superbe, riant de toutes ses superbes dents, écrit-il. Le 10 août 1903, ce jour-là, 84 personnes meurent dans la catastrophe. Le Métropolitain venait de fêter ses 3 ans. En forçant le trait un peu, on pourrait dire que le métro doit quelque chose à Victor Hugo, ce géant visionnaire devenu boussole humaniste du 19e siècle. Hugo veut, comme il l'écrit lui-même, la mort de la peine capitale. Il veut donner pour contrepoids au droit de l'homme le droit de la femme. Il veut détruire la misère, car cela est possible. Et tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Et puis Hugo ne veut pas que le métropolitain soit aérien. Considération a priori un peu prosaïque face au combat universel qu'il mène. Bon, en cette fin de siècle, le débat à Paris est bien là. Aérien ou souterrain le métro ? Car personne ne conteste la nécessité de donner à la capitale un nouveau moyen de transport qui désengorgerait le centre et des boulevards encombrés de tramways, d'omnibus, de fiacres et de charrettes. Non, la vraie question est bien celle-là, aérien ou souterrain ? Anne Hidalgo n'est pas née, Paris est encore congestionné, et Paris s'en amuse, mais oui, comme on peut le lire en une du Figaro, en septembre 1900, sous le titre « Les embarras de Paris ».
Encore une jambe, encore un bras de cassé, c'est le tramway qui passe. Tous les matins, il y a une rubrique spéciale pour ce genre d'accident. Cela donne évidemment un certain pittoresque aux promenades dans Paris. Il faut, pour s'aventurer sur la chaussée, des idées de suicide. J'ai vu l'autre jour, dans la rue d'Amsterdam, des passants regarder avec admiration un brave homme qui descendait tranquillement la chaussée avec sa femme et son petit garçon. Il n'avait pas l'air du tout de se douter du danger qu'il courait. Quand il est arrivé au bout de la rue, on lui a fait une ovation.
C'est clair, il faut à Paris un métro, comme Londres a le sien. Et il y a donc 2 camps. Dans le premier, les partisans de l'aérien. Dans leur esprit, rien ne sublimerait mieux les monuments parisiens qu'un chemin de fer urbain dressé sur des colonnes et des piliers. Au contraire, pour les partisans du souterrain, rien ne saurait mieux épargner au même monument parisien la disgrâce de viaduc soutenant une machinerie. Victor Hugo, pour en revenir à lui, est alors président d'honneur de la Société des Amis des Monuments Parisiens, association opposée au métro aérien. Dans le bulletin qui paraît quelques mois après la mort de l'écrivain, il est écrit « Les dispositions actuelles détruiraient la physionomie de plusieurs monuments, mutilerait l'aspect de plusieurs des plus belles perspectives et Paris doit rester la ville de l'élégance. » Parole de Parisien, évidemment. Ce à quoi les partisans de l'aérien rétorquent en surnommant très habilement le projet souterrain « nécropolitain ». Pendant des années, les 2 camps s'affrontent et ne se retrouvent que pour brocarder le ridicule d'autres projets comme le métro sur plan incliné ou même le métro aquatique. Un débat qui éclot le 9 juillet 1897, quand le Conseil de Paris tranche, le métropolitain sera souterrain et électrique. En vérité, cette décision la doit à un autre homme que Victor Hugo, un certain Fulgence Bienvenue. Oui, et c'est pour ça que la station Montparnasse s'appelle Montparnasse Bienvenue, car en vérité, elle n'est pas plus accueillante qu'une autre. Bref. Ce Fulgence Bienvenu, surnommé le père du métro, ne s'est jamais déplacé qu'en fiacre, dit-on. Et comme un Parisien sur 6 à l'époque, Bienvenu naît breton en 1852, puis fait ses études chez les religieux, intègre Polytechnique et sort ingénieur de l'école des ponts et chaussées. Affecté en Normandie au chemin de fer, un accident sur une voie le laisse manchot, en l'expropriant de son bras gauche, comme il le dit volontiers. Revenu à Paris, il travaille à l'aménagement de la capitale voulue par le baron Haussmann, participe au percement de l'avenue de la République, aménage le parc des Buttes-Chaumont, avant son grand œuvre qui est, je cite, « l'établissement dans Paris, à titre d'intérêt local et d'utilité publique, d'un chemin de fer métropolitain à traction électrique, destiné au transport des voyageurs et de leurs bagages à main. Bienvenue » est présenté comme un esprit audacieux mais raisonnable, rigoureux et réaliste.
L'ingénieur en chef, Fulgence Bienvenu, est chargé de la construction déclarée en 1898 d'utilité publique ô combien. La ligne numéro 1 sera Port de Vincennes-Porte Maillot, grand axe de la capitale déjà désigné par le nôtre et par Napoléon. On demande à l'ingénieur Bienvenu de tenir un pari, de réaliser un tour de force. Les travaux commencent en octobre 1898 Les 14 kilomètres de cette ligne devront être ouverts dans moins de 18 mois, en juillet 1900, pour desservir l'exposition internationale universelle.
Alors on éventre, on déblaye, on remblaye, on creuse, on fore. La rue devient un spectacle pour les badauds, un cauchemar pour les riverains. 2000 terrassiers se relaient 24 heures sur 24 pour creuser les 14 kilomètres de tunnel entre la porte du Maillot et Vincennes. Le chantier avance de 4 mètres par jour. Mais tout aussi impressionnant soit-il, il n'alimente guère la chronique. Tout juste signale-t-on la découverte dans le sous-sol parisien d'une défense de mammouth, d'oses de rhinocéros, d'un pan d'enceinte fortifié du IVe siècle ou de sarcophages et de bas-reliefs funéraires. On recense aussi une grève des terrassiers dans les journaux de 1899. Ceux-ci demandent une indemnité journalière de 0,75 centimes de l'heure contre 0,60, soit 1,70 euros contre 1,40 euros. L'hôtel de ville évoque un malentendu. Vite réglé d'ailleurs, la grève est levée. Mais on ne trouve pas dans la presse de l'époque le nombre d'ouvriers blessés ou tués durant le chantier. Non, on préfère s'intéresser aux effondrements de chaussées ou aux machines déréglées qui crachent du ciment sur les passants. Malgré les exploits techniques, malgré le dévouement des terrassiers, le métro n'est pas opérationnel en avril 1900 quand s'ouvre l'exposition universelle. Les semaines passent, on envisage juillet, on espère le 14 pour le symbole. Raté, le métropolitain a des allures d'arlésienne. Le 16, toutefois, un journaliste du Matin embarque pour ce qu'il appelle la répétition générale.
Nous sommes allés prendre le train électrique à la station de Vincennes. Événement inouï. Il ne nous a pas fallu plus de 27 minutes, montre en main et arrêt compris, pour atteindre la porte Maillot. Ce n'est pas un voyage. C'est une glissade de rêve entre des murs de pierre blanche et sous des voûtes éclatantes de lumière électrique. Les trains aux wagons fort coquets, de véritables salons ambulants, montent et descendent sur leur droite. Point de fumée, point de suie, point de charbon dans ce métropolitain moderne. Rien qui ne rappelle le train noir et sale du métropolitain londonien. Le résumé de nos impressions sur ce voyage d'essai ? C'est parfait.
L'ouverture au public a lieu le 19 juillet et à la fin de l'année 1900, 17 660 286 voyageurs ont emprunté la ligne et 55 882 027 l'année suivante. Le succès du métro dépasse les attentes et la compagnie du chemin de fer Métropolitain de Paris compte les accidents. 82 voyageurs ont été blessés par la fermeture des portières, 94 en descendant avant l'arrêt complet, ce qui est ballot, 11 en voulant monter en marche, ce qui est encore plus ballot. Puis la ligne 2, qui épouse le tracé des grands boulevards entre Port-Dauphine et Nation, est achevée en avril 1903. 5 mois plus tard, le 10 août, comme l'écrit le Matin, ce n'est pas un simple accident, comme on le croyait, comme on l'espérait, qui s'est produit, mais une véritable catastrophe. C'est le dramatique incendie du 10 août, et voilà comment tout a commencé. Un peu après 19h, dans la rame numéro 43, le Watman, le conducteur, remarque une fumée qui monte du plancher. Il stoppe le train à la station Barbès et fait descendre les voyageurs, parmi lesquels nous retrouvons Alfred Martin, le journaliste de la Gazette de Charleroi avec lequel nous avons débuté ce récit. Il raconte.
Boulevard Barbès, arrêt prolongé 10 minutes. Puis subitement, un cri. Tout le monde descend. Je vais en tête de train pour voir. La voiture motrice était pleine de fumée, les essieux semblaient brûler le plancher. Un employé apporte l'extincteur et tout s'arrange. Vide de ses voyageurs, encore un peu fumante, la lourde rame de 8 wagons s'éloigne. 2 minutes plus tard, un nouveau train arrive, déjà complet. Nous nous y fourvoyons. Rue de la Chapelle, Aubervilliers, ça roule. Rue d'Allemagne, nouvel arrêt, puis nouvelle invite. Tout le monde descend.
Après avoir dû évacuer du train numéro 43, voilà donc Alfred Martin et 300 personnes doivent évacuer le 52. La raison ? Dans le 43, l'incendie couve toujours et le Watman peine à faire repartir la motrice. le 52, va donc pousser le train en panne jusqu'au terminus. Dans les deux rames, désormais vides de voyageurs, ne reste qu'une dizaine d'employés. Sur le quai de la station Allemagne, aujourd'hui Jaurès, les passagers des rames 43 et 52 patientent en rouspétant. Arrive alors la rame 48, déjà pleine. Mais Alfred Martin et les autres y montent. On s'insulte, on s'injurie, on veut partir, enfin, note-t-il. Le train numéro 48 se met à rouler. Deux stations plus loin, à Ménilmontant, les deux rames qui voyagent à vide s'engagent entre les quais noirs de monde. À cette heure-là, il est 19h30, l'heure de pointe, et l'incendie a repris. Il est désormais hors de contrôle. L'un des employés à bord descend et crie à tout le monde de remonter à l'air libre. Les autres personnels fuient par l'arrière, courent dans le tunnel qui mène à la station précédente, couronnent là où vient de s'arrêter le train numéro 48. Dans son livre « Mémoire du métro », l'historien Roger-Henri Guérand écrit
« Le 48 était bondé, car il avait reçu, outre son contingent, les voyageurs évacués des deux trains précédents qui avaient trouvé moyen de s'y caser. Certains descendent. Ils sont parvenus à destination. D'autres veulent voir ce qui occasionne l'arrêt et regardent à l'extrémité du tunnel la lueur de l'incendie de Ménilmontant. Les employés qui se sont sauvés de cette station surgissent à ce moment et crient qu'il y a danger à s'attarder. Le chef de train ordonne l'évacuation. C'est aussitôt un concert de protestations. On entoure l'employé, on demande le remboursement des billets.
Ces demandes de remboursement hurlées, nos 3 sous, marque le journaliste Alfred Martin. C'est le premier souvenir sonore qui lui vient. Ensuite arrivent les hurlements d'effroi face à la fumée qui vient de la station Ménilmontant, attisée par l'appel d'air créé par les 450 mètres de tunnel. La gare de Couronne se transforme alors en piège où les lumières s'éteignent. En coupant le courant de la rame, les employés de la compagnie du Métropolitain coupent aussi l'alimentation de la station entière. C'est le même réseau électrique. Malgré la panique, Alfred Martin décide de rejoindre la gare de Belleville, celle qui précède Couronne.
Alors c'est la folie furieuse. Sauvage, la bousculade atroce. Dans l'escalier qui vient de l'extérieur, les gens munis de leurs billets ne veulent ni reculer ni sortir, ne comprenant qu'à moitié ce qui leur arrive. Sur le quai, un remous formidable agite la foule. Où est la sortie? On pleure, on crie, tout le monde se cogne. Et puis les hurlements s'espacent. L'asphyxie fait son œuvre. Tout à coup, plus de lumière. Nous nageons dans l'encre fluide. Une odeur âcre rappelant l'ammoniaque empeste l'atmosphère. J'ai toutes les peines du monde à résister et à soutenir ma femme qui trébuche. Enfin, la station Belleville. Il y a foule et là aussi, les gens qui encombrent l'escalier ne veulent pas remonter. Ils réclament aussi leurs 3 sous.
Dehors, la nouvelle se répand vite et des badauds se pressent aux entrées de la station Couronne, d'où émergent de larges panaches de fumée noire. Des agents de police empêchent la foule de s'approcher en tendant des cordes. Des pompiers tentent de descendre dans le tunnel, mais le brasier est tel que les rampes brûlent leurs mains. L'un d'eux, équipé d'un casque respiratoire semblable à celui d'un scaphandrier, ne parvient pas à atteindre le quai du métro. Et quand il remonte, il ne peut qu'évoquer une masse rouge, effrayante, un serpent de feu, dit-il. Dehors, de longues heures d'attente débutent pour celles et ceux qui sont sans nouvelles dès lors.
Et des trains de jadis t'amenant chaque jour venus de la chapelle. Jadis déjà, combien pourtant je me rappelle. Après les premiers mots de bonjour et d'accueil, mon vieux bras dans le tien, nous quittions cet auteuil et sous les arbres pleins d'une jante musique, notre entretien était souvent métaphysique. Forts arguments, ta foi du charbonnier, non sans quelque tendance aussi franche à nier, mais si vite quittée au premier pas du doute. Et puis nous rentrions plus que lent par la route un peu des écoliers, chez moi, chez nous, plutôt y déjeuner de rien, fumailler vite et tôt et dépêcher longtemps une vague besogne. Mon pauvre enfant, ta voix dans le bois de Boulogne.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Paris, août 1903, l'incendie du Métropolitain.
Affaires sensibles.
Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, calmez-vous. Un feu s'est déclaré, tout le monde va pouvoir sortir. Les pompiers vont arriver.
Fabrice Drouel.
Jusqu'à 3h du matin, en cette nuit du 10 au 11 août 1903, soit 8h après le début de l'incendie, personne ne peut descendre dans la station Couronne. Les autorités parisiennes se veulent au début rassurantes. Mal informé par les employés du métro, assurant n'avoir laissé personne derrière eux, le préfet Lépine évoque même un accident sans victime. Mais alors que la capitale plonge dans la nuit, il faut bien se rendre à l'évidence. Paris compte ses morts par dizaines. Ici, c'est une femme qui cherche à descendre à tout prix pour retrouver son homme, qui en 30 ans de mariage n'est jamais rentré en retard, comme elle dit. Les agents doivent s'y mettre à plusieurs pour l'empêcher de franchir les barrages. Là, c'est un gardien de la paix qui attend sa femme et sa fillette sortie dîner chez des parents. Il attend, stoïque, écrit un journaliste. Il ne pleure pas, mais sa grosse moustache se crispe à chaque instant d'émotion. Vers 3h du matin, un premier pompier réussit à descendre. Voici son témoignage, publié par le Petit Journal.
Jamais je n'oublierai l'épouvantable spectacle et l'âcre odeur qui se dégageait du tunnel. Comment ces pauvres diables ont-ils pu venir mourir là, en tas? Les uns sont plaqués debout contre le mur, les mains crispées sur les briques de faïence. Et ceux qui venaient derrière eux, qui certainement les poussaient, les ont maintenus dans cette position. Ils les calaient, pour ainsi dire. Pêle-mêle, des hommes, des enfants, aux visages convulsés, noircis ou violacés. Et mon horreur a augmenté quand j'ai aperçu, séparé des autres cadavres, le corps d'un pauvre homme qui tenait dans ses bras contractés et raidis une fillette.
Le journal précise que, se sentant mieux malgré ses jambes incertaines, le sapeur est redescendu dans le gouffre souterrain pour aller chercher des cadavres. À 6h30 du matin, en effet, 77 corps sont remontés des entrailles de la station Couronne et 7 de la station Ménilmontant. La grande majorité des victimes ont été asphyxiées, les autres comme dissoutes par le feu. À la morgue et à la caserne de la cité commencent alors les autopsies avant que les cadavres ne soient déposés dans des cercueils numérotés. Alors vient l'épreuve de la reconnaissance des corps et le défi des familles anxieuses. Les parents ont le visage baigné de larmes, raconte le Petit Journal. La démarche saccadée et chancelante. Ils se baissent pour essayer de reconnaître sous la noircissure des chairs les traits de l'être dont on pleure déjà la mort. Les journaux du lendemain de la catastrophe égrènent les 84 noms des victimes, leur âge, leur situation. Il y a 21 femmes, 63 hommes, dont 14 sont mineurs. La plus jeune victime a 7 ans. À 3 exceptions près, toutes et tous appartenaient à la classe ouvrière ou à celle des employés. L'incendie a ravagé des vies modestes, ce que relève un chroniqueur du journal Le Temps.
La catastrophe du Métropolitain a causé dans tout Paris l'émotion la plus douloureuse. Il y a dans ce malheur plus d'un détail navrant qui rappelle l'incendie de l'Opéra-Comique ou celui du bazar de la Charité. Mais cette fois, la mort n'est pas allée chercher ses victimes parmi des spectateurs de théâtre au milieu du plaisir. Elle n'a pas châtié les heureux tandis qu'ils faisaient l'aumône avec élégance. Elle décime de braves gens, de pauvres gens, qui pour la plupart revenaient de leurs occupations après une rude journée. La vie des hommes est tout de même plus précieuse que le prix de leur ticket. On ne peut pas reprendre à la mort les 84 vies qu'elle a saisies, mais au nom de l'humaine solidarité, ce que l'on doit à leur mémoire, c'est de tout faire pour qu'un tel malheur ne se renouvelle point.
Dès le surlendemain de la catastrophe, toute la presse réclame que les stations disposent de cheminées d'aération pour que la fumée puisse s'échapper. Le journal Gil Blas édicte toute une série de conditions, dont chaque mention débute par « nous demandons ». Par exemple, « nous demandons que les barrières fixes et mobiles qui obstruent les sorties des couloirs déjà trop étroits disparaissent ». Nous demandons que les voitures motrices soient visitées scrupuleusement après chaque voyage et que des inspecteurs de la ville s'assurent de la régularité et de la bonne exécution de cet important examen. Dès le surlendemain, le préfet de police, Louis Lépine, apporte son concours et dresse une liste d'injonctions à la compagnie du métro. Des éclairages de secours branchés directement sur le réseau électrique parisien, indépendant de celui du métropolitain, doivent être installés. Dans chaque gare, un appareil téléphonique doit être relié à la caserne de pompiers la plus proche. Enfin, dans chaque gare encore, des robinets à haut débit doivent être raccordés. À ces conditions, écrit encore le journaliste de Gil Blas, on pourra prendre son ticket sans ressentir le frisson de la mort. Et Alfred Martin, notre journaliste belge rescapé de la catastrophe, écrit dans la Gazette de Charleroi:
laissez-moi déplorer que la lumière ne fût pas indépendante du courant moteur. Laissez-moi me plaindre que derrière un train incendié, on ait lancé immédiatement des trains de voyageurs, sans avoir au préalable aéré la voie. Laissez-moi constater qu'au long de ce boyau souterrain, entre la muraille et la voie, pas une sente de 25 cm ne soit réservée aux piétons. Laissez-moi affirmer que si les employés furent méritants individuellement, l'organisation d'un service de sortie fut insuffisante.
Réuni après l'incendie, le conseil municipal de Paris décide la création d'une commission d'enquête parallèle à l'enquête judiciaire. Un élu lance « Si les Parisiens doivent faire leur testament chaque fois qu'ils prennent le métro, il serait intéressant de savoir. » Oui, ce que Paris veut surtout savoir, c'est à qui la faute ou à quoi. Alors le père du métro, Fulgence Bienvenue, désigne un coupable, l'électricité. Elle est une puissance mystérieuse, dit-il. Une puissance capricieuse que nous ne connaissons pas encore très bien. Il n'y a guère que 10 ans que l'industrie des transports l'a prise à son service. Et l'on s'habitue trop aux dangers qu'elle fait courir. Un chroniqueur la compare de son côté à de la foudre emmagasinée et en conclut que personne n'est responsable du coup de tonnerre. Bref, c'est la fatalité, la rançon du progrès. C'est d'ailleurs par cette expression que débute dans le Mercure de France l'article de l'écrivain Rémy de Gourmont.
Il y a dans la marche des choses une logique qui nous est difficilement accessible à cause de l'immense complexité du mécanisme vital dont nous faisons partie. Il se peut que la chose prévue n'arrive pas et que l'imprévu se manifeste. Personne de sensé n'a jamais cru que l'on provoquerait chaque jour par milliers des courts-circuits au milieu de matières inflammables sans qu'il n'en résultât jamais que d'inoffensives illuminations. L'incendie devait se produire, et il se reproduira, à moins d'une invention nouvelle. L'attitude des hommes devant l'accident est intéressante. Ils le considèrent comme un illogisme et se fâchent. Mais l'accident est logique.
La compagnie du métro, elle, se place loin de ce raisonnement assez simpliste, il faut bien le dire. Non, elle a un coupable tout désigné. Le Wattman Chauvin, autrement dit le pilote de la motrice de la rame 43. Ainsi, le 31 mars 1904, après 8 mois d'instruction judiciaire, Alfred Chauvin et 3 autres employés sont renvoyés devant le tribunal pour homicide par imprudence. C'est ce qu'on appelle des fusibles, alors que c'est l'électricité, si l'on en croit Bienvenue, qui est à l'origine de la catastrophe. Mais il faut bien des responsables.
L'audience est ouverte.
Le procès s'ouvre le 8 décembre de la même année. Dans l'Humanité, on lit que la première journée d'audience laisse deux impressions bien nettes et bien pénibles. Je cite. La première, le service du métropolitain était bien médiocrement assuré selon le journal. La seconde, les chefs sont à l'abri des poursuites et seuls quatre employés subalternes se voient reprocher négligence et imprudence. Le Figaro est sur la même ligne que l'Humanité pour le coup. Dans son édition du 11 décembre, le journaliste qui suit les débats écrit « La raison ne peut être que choquée par ces poursuites en responsabilité pénale dirigées contre des braves gens, dont la faute douteuse n'apparaît qu'à des techniciens rarement d'accord entre eux sur les moyens d'éviter l'accident. » À la barre se succèdent quelques experts et témoins, sans que rien ne vienne réellement étayer la faute du Wattman Chauvin et de ses trois camarades. Un passager vient même dire que Chauvin a demandé à aller sur une voie de garage avant que l'incendie ne ravage les wagons et que cela lui a été refusé. On ne peut donc pas lui reprocher de ne pas l'avoir fait. Pourtant, le procureur de la République, en des termes énergiques, relève la presse, conclut à la responsabilité des prévenus. Place alors aux avocats de la défense, des ténors du barreau, qui semblent s'être répartis les axes de défense. Maître Viviani, René Viviani, qui deviendra président du Conseil, ironise, lui, sur cet usage singulier de l'accusation qui consiste à toujours mettre en cause les petits. Maître Millerand, Alexandre Millerand, qui deviendra, lui, président de la République, reprend le refrain de la rançon du progrès.
Il semble à l'accusation que l'opinion publique ne serait pas satisfaite si au malheur d'une catastrophe ne venait pas s'ajouter le scandale d'une injustice. Il semble qu'il faille un bouc émissaire, qu'il faille personnifier la faute. Mais pourquoi ? Monsieur le procureur disait hier qu'on ne pouvait pas répondre aux parents des morts et aux blessés qui demandent réparation. Le coupable, c'est le vent qui a refoulé la fumée. C'est l'aveuglement de la foule. Mais si c'est la vérité, pourquoi ne pas la dire ? Pourquoi faudrait-il frapper quatre malheureux alors que la cause profonde est dans la nouveauté de l'exploitation du métropolitain ? Il faudra toujours payer au progrès sa rançon. Mais les innocentes victimes qui en sont le prix ne demandent pas que d'autres innocents soient sacrifiés à l'expiation et à la vengeance.
L'avocat vise juste. Dans son jugement rendu le 17 décembre, le tribunal reconnaît des circonstances atténuantes à Chauvin et à ses trois camarades. Autrement dit, une insuffisance professionnelle et technique compte tenu de leur peu d'expérience dans un métropolitain d'exploitation trop nouvelle. Et comme le souligne le tribunal, les victimes sont restées sourdes à l'appel de quitter les rames et les quais. Chauvin et ses camarades sont donc condamnés à de la prison avec sursis et avec des amendes. Et la compagnie, elle, a versé des dommages et intérêts aux victimes, ce dont elle avait commencé à s'acquitter. Bref, les 84 morts du métropolitain ont été tués par la fatalité et le progrès. Circulez. L'émotion qui avait gagné le monde entier au lendemain de l'accident, jusqu'en Chine d'ailleurs, est déjà oubliée. La fréquentation qui avait diminué de moitié au lendemain de l'accident est repartie à la hausse. Les mesures de sécurité demandées au lendemain de l'accident sont prises. Éclairage, signalisation, électricité, évacuation des fumées, équipement des pompiers, tout a évolué. Même les rames de métro sont changées. Elles étaient en bois, elles sont désormais en métal. Aujourd'hui, la station Corone accueille chaque année plus de 2 millions de visiteurs. Ils passent sans savoir que sur ces quais-là, aujourd'hui si sécurisants, ces quais furent aussi un tombeau. Ils ne le savent pas, et pour cause. Aucune plaque commémorative, aucune mention de la catastrophe du 10 août 1903 n'y figure.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la catastrophe dans le métro parisien d'août 1903, une émission en partenariat avec le site Retour News de la Bibliothèque nationale de France. Notre invité Mathieu Flonneau, bonjour.
Bonjour Fabrice Drouel.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Paris 1, spécialiste d'histoire urbaine, des mobilités et de Paris. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur ces sujets. J'en cite deux, Le grand dessin parisien de Georges Pompidou, paru en 2011 chez Somogy. Et pour en finir avec Le Petit Paris, paru lui l'an dernier chez Archicity. Et je signale que vous avez rédigé l'article sur la catastrophe de 1903 pour l'encyclopédia Universalis. J'aimerais d'abord revenir sur ce métro qui a 3 ans au moment de la catastrophe, en 1903. On parle dans le récit du chaos que sont les rues de Paris à l'époque. À quoi ressemblait la capitale en 1903 ?
Alors, le métro va apporter une grande révolution, à la fois capacitaire, puisque des millions de passagers vont l'emprunter rapidement, et il vient, en quelque sorte, suppléer à des rues congestionnées, des rues où la circulation est effectivement très hétéroclite, où voisine beaucoup, à l'époque, des véhicules hippomobiles, des véhicules à traction animale, plus généralement, où on voit des chiens tirer des petits attelages, et puis apparaissent, à l'époque aussi, ces concomitants des automobiles. Apparaissent aussi des taxis, apparaissent différents modes de transport qui viennent s'ajouter au tramway qui existe et qui est, votre texte le disait, perçu parfois comme encombrant et dangereux puisqu'il occasionne beaucoup d'accidents et il y a des morts sur le réseau parisien. À bien des égards, il va y avoir un processus de civilisation auquel le métro va participer parce que l'augmentation de la mobilité, cette révolution capacitaire et robuste, eh bien elle va avoir lieu pour l'essentiel sur des rails, à la fois en aérien, c'est tout le débat, ou en souterrain, et elle va donc contribuer à désengorger, mais aussi apporter une augmentation considérable des mobilités. Donc on ne peut pas dire que les rues de Paris ont été désencombrées par le métro, néanmoins il a permis le développement d'une métropole extrêmement active, d'une vraie ruche, et il a permis des migrations quotidienne, temporaire, qui sur le jour, avec des heures de pointe, le matin, le soir, le midi également, permettait à des foules entières d'aller sur leur lieu de travail et de revenir chez elles.
Et je note que vous avez employé le mot révolution. Pour vous, c'est une révolution. Même s'il existe déjà à Londres, mais enfin, c'est quand même une révolution.
Oui, à Paris, c'est une révolution. Alors, il existe déjà dans les pays anglo-saxons, vous les avez évoqués, à Londres, à New York, depuis une quarantaine d'années. Il existe aussi à Budapest. Paris n'est pas en avance. Et c'est tout l'enjeu aussi du débat du métropolitain parisien. C'est qu'il a très longtemps été retardé par des débats entre des logiques étatiques et des logiques municipales. Je rappelle que Paris a un conseil municipal puissant, que ses conseillers sont amenés à se prononcer sur différentes questions qui portent aussi sur les revenus que la capitale doit avoir. Et le métropolitain parisien est un métropolitain dédié aux voyageurs, mais des débats existaient pour savoir si le chemin de fer pouvait également servir au fret. Et là se posait une question, parce que si l'on sortait des limites de la capitale, on franchissait l'octroi. Et l'octroi était une source de revenus, un impôt, finalement, que la ville percevait. Et il était question, évidemment, de le supprimer, ce que le conseil municipal de Paris voyait d'un très mauvais œil. Ce qui explique aussi l'enserrement du réseau de métro, qui commence avec quelques lignes, et là, en 1903, on en a deux. Très rapidement, une vingtaine d'années, le métro va devenir un réseau réel, mais toujours enserré, jusqu'à une date assez récente, dans les limites que le baron Haussmann avait déterminées.
Alors, on va y venir, cet incendie d'août 1903, est-il imputable à ce qu'on appellerait aujourd'hui un manque délibéré à une obligation de sécurité ?
Des procès, vous l'avez dit, des commissions d'enquête ont cherché à établir des responsabilités, en tout cas à comprendre la cause, pour que ceci ne survienne plus. C'est réputé à l'époque comme la grande catastrophe souterraine. Il faut attendre 1918 pour qu'à New York intervienne une autre catastrophe dans le métro qui fait près de 93 morts. Néanmoins, à Paris, là, la tragédie aurait pu marquer au fer rouge ce mode de transport, il n'en est rien. Parce que, précisément, cette rançon du progrès sur laquelle nous reviendrons, les mesures qui ont été adoptées par la suite ont redonné confiance aux voyageurs, ont témoigné enfin de ce que l'on appelle aujourd'hui la sécurité ferroviaire. La sécurité ferroviaire, c'est évidemment plusieurs milliards de passagers et quelques accidents. Mais à l'époque, force est de constater que le métro hérite des catastrophes qui ont pu avoir lieu dans les chemins de fer. Et il y en avait une qui est très importante en 1842, même configuration quelques années après une inauguration de ligne entre Versailles et Paris, c'est la catastrophe de Meudon qui fait près de 55 morts. Et là, des raisons aussi anecdotiques qui cessent d'être anecdotiques dans l'enchaînement des circonstances de la catastrophe, et c'est le drame évidemment qui se noue à chaque fois au moment de ces accidents, les portières étaient fermées. Pour des raisons de sécurité. Et évidemment, on a revu des systèmes ensuite pour que l'on puisse échapper éventuellement au déraillement, puisqu'à Meudon, c'était un déraillement.
France Inter. À Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Mathieu Flonon, on a beaucoup parlé dans cette affaire de la rançon du progrès. Hein. C'est une formule passe-partout, pratique, réductrice. Aussi, que faut-il entendre par la rançon du progrès, notamment à cette époque-là?
Qu'il peut y avoir effectivement sur l'autel d'une société qui a une foi affirmée dans le progrès technique, eh bien qu'il peut y avoir des sacrifices, qu'il peut y avoir des moments, et le raisonnement dépasse le cynisme élémentaire, des moments où pour précisément améliorer et sécuriser des conditions de transport en l'occurrence, mais il en serait de même pour des conditions de travail. Je rappelle que la catastrophe de Couronne, c'est 3 ans avant le plus grand accident du travail en France, qui est celui des mines de Courrières, qui a donné lieu également à une littérature abondante sur la recherche de responsabilité et la sécurisation de l'exploitation minière. Il y a là, autour de ce mythe, qui est un mythe, effectivement, du progrès que l'on n'arrête pas, qui est une forme de déroulement du sens de l'histoire, il y a une certitude que ce n'est pas en vain que ces victimes auront été occasionnées, et que précisément, Couronne est un exemple de cela, des mesures radicales, parfois, d'amélioration de l'exploitation, parce que c'est un accident tragique d'exploitation qui survient là.
Ce qu'on appelle l'accidentologie. Hein.
L'accidentologie qui répond effectivement à des logiques que votre texte restituait parfaitement, qui sont comprises dans, finalement, ce sens de l'histoire. Je reviens sur l'expression, bien que l'historien ne l'aime pas, mais sur ce sens de l'histoire présumé qui fait de ces catastrophes des moments d'évolution et d'amélioration des conditions générales. Alors, c'est évidemment très cynique.
On le voit parfaitement avec l'aéronautique. C'est typique de ça.
Exactement, également.
Alors justement, comme on parle des changements, on parle des changements de rame juste après, et on a mis en service des Sprague Thompson. C'était quoi là, une Sprague Thompson?
Alors c'était une technologie américaine, deux ingénieurs américains, Frank Sprague et Elihu Thompson, qui étaient évidemment des pionniers dans la traction électrique. Il est intéressant de voir que Frank Sprague était aussi l'un des inventeurs des ascenseurs, et avec Otis et puis une autre compagnie, Westinghouse, il y avait là des technologies qui ont été garantes finalement du développement à la fois des mobilités dans toutes les dimensions de l'existence, et le développement aussi avec la nature même de ces véhicules, de ce matériel roulant qui est métallique, et bien de toute une industrie métallurgique très puissante américaine qui puise là dans les tréfonds de la puissance industrielle nord-américaine. Les Sprague Thompson, alors c'est toute une légende à la RATP. Aujourd'hui, RATP, société qui a succédé en 1948 aux compagnies privées, mais c'est des rames qui sont monuments historiques aujourd'hui, qui pour certaines roulent encore, mais qui pour certaines roulaient encore. Dans les années 1980, ces rames ont eu une notoriété fabuleuse, avec les modes de guidon, de conduite, avec les deux possibilités arrière-avant de se diriger, avec aussi la capacité qui était importante. Il y avait un emport de personnes assises et de personnes debout. Donc on était sur une capacité d'à peu près 115 personnes au maximum, ce qui est beaucoup plus que les nouvelles rames du métro, du métropolitain parisien, qui sont rénovées en ce moment même, ou les rames futures du Grand Paris Express, puisque nous en reparlerons. Toujours est-il que ces rames ont une vraie notoriété sur la durée.
Alors, on pense aussi à un débat très intéressant, le débat sur l'électricité, la fée électricité, mais qui en même temps fait peur un peu, comme le nucléaire aujourd'hui.
Alors Fulgence Bienvenue l'a bien dit, il y a quelque chose qui demeure d'assez mystérieux, mais qui est très vite quand même domestiqué. C'est une familiarisation avec l'électricité à tout point de vue. La Tour Eiffel le rappelle dès 1889, il y a là l'énergie de l'avenir. Il y a là ce qui va permettre à la ville de vivre aussi 24 heures sur 24, au travail, d'être révolutionné. Et donc il y a autour de la fée électricité toute une légende. Alors là, l'enjeu de l'amélioration suite à la catastrophe, c'était le découplement des réseaux entre à la fois l'alimentation des rames et puis aussi tout simplement les systèmes de sécurité internes aux stations. Le récit le disait bien, c'est une accumulation d'erreurs d'ordre contradictoire et puis quelques éléments également structurels comme une seule sortie de la station Couronne qui fait que beaucoup de personnes sont mortes asphyxiées alors qu'elles s'étaient rapatriées finalement pour essayer de se protéger en fond de station.
Avec le Grand Paris Express, alors le métro, forcément, change de visage, de vocation même.
Alors il change surtout d'échelle, en quelques décennies, avec un rythme extrêmement soutenu, mais moindre quand même que ce qui avait été prévu. Ce sont 68 gares qui vont redistribuer à l'échelle de toute l'agglomération parisienne les mobilités, avec un métro qui emprunte au système automatique, c'est-à-dire qu'il pourrait être un métro fonctionnant H24, ce ne sera pas le cas, on peut le déplorer tout de même, mais toujours est-il que ce système va révolutionner par la capacité les relations entre banlieue et banlieue, bien précisément. Sûr. Avec quand même ce système en 8 qui est tout à fait spectaculaire et le Grand Paris Express avec des matériels roulants très neufs, très performants, avec des capacités de vitesse de pointe de plus de 110 km/h et une vitesse moyenne de près de 60 km/h attendue sur certains tronçons. Enfin, oui, effectivement, c'est une révolution mobilitaire.
Et sans conducteur ?
Sans conducteur, ouais. Comme la ligne 14.
Oui, exactement. Alors, on parle de transport et les spécialistes parlent de mobilité. Quelle est la différence entre ces deux notions ?
C'est quelque chose qui détechnicise le débat. Le transport, on le conçoit, c'est un outil technique, c'est un objet technique, c'est une réalisation qui répond à quelques performances chiffrables. La mobilité, c'est plus délicat parce que la mobilité, c'est l'imprégnation sociale, culturelle, patrimoniale, évidemment technique et économique, qui permet de créer de l'activité. Et la mobilité, elle est ce qui est aujourd'hui dans la loi d'orientation des mobilités qui a succédé à la loi d'orientation sur les transports, et la sémantique, effectivement, a toute son importance, et la conférence de financement des mobilités, aujourd'hui, traite vraiment de ce qui est du lien social. Et c'est ce lien social.
Également la marche à pied et le vélo.
Oui,
hein, ça, pas c'est seulement le métro, le bus, tout ça.
D'accord. Absolument, tous les modes sont concernés et toutes les infrastructures sont possiblement concernées. Mais surtout, ce qui est concerné, ce sont les à côté. C'est-à-dire la possibilité de créer une activité, de créer un sens économique à cet outil technique qui est un outil de déplacement.
Toute dernière chose, parmi les mobilités nouvelles qu'on peut imaginer, il y a par exemple la voiture qui vole. Le Japon a mis au point un prototype. Alors, il vole dans une cage pour l'instant. C'est une solution qui vous séduit ?
À titre personnel, je ne me prononcerai pas. Toujours est-il que cela pose d'autres problèmes de réglementation. Il y a eu des tentatives qui, normalement, auraient dû aboutir au JO de Paris, mais elles n'ont pas été suivies des faits. L'industrie automobile chinoise s'intéresse beaucoup à la question. Le salon récent de Shanghai l'a rappelé. Vous êtes là devant des seuils qualitatifs qui vont tout de même se heurter au mur du réel. Et ce que l'on constate, c'est que les réseaux de chemin de fer, sur la durabilité de l'innovation, ont pour eux cette lecture stable et capacitaire que n'offrent pas encore ces utopies qui, même si techniquement elles sont réalisables, cela reste au stade de l'invention et on ne passe pas au niveau de l'innovation socialement acceptée.
Bien sûr. Merci, merci infiniment, Mathieu Flonneau.
Merci.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la catastrophe du métro parisien d'août 1903. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Laurent Baudouin.